Le grand témoin.
Bonjour, heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Avec moi dans ce studio, Henri Kalama Akoulez, il est artiste peintre, professeur d'université et directeur général de l'Académie de Beaux-Arts. Professeur Henri Kalama Akoulez, bienvenue au studio de Radio Capi.
Merci.
On va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment. Ils sont très nombreux à travers la RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radioocapi.net. Vous nous parlerez de vos débuts dans la peinture. Comment vous vous êtes retrouvé dedans? Qu'est-ce qui vous a attiré? Aujourd'hui, vous êtes directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Vous avez étudié là-bas?
J'ai étudié là-bas.
Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à la tête de cet institut.
Chef-fils maison.
Voilà, vous nous parlerez de cette fonction que vous occupez depuis
100 jours.
100 jours. Alors, avant ça, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né le 23 mars 1973.
À Sampoué.
Dans l'ex-province du Katanga. Et c'est là que vous avez grandi?
Oui, à Lubumbashi. J'ai grandi à Lubumbashi. Bon, et une partie aussi à Kinshasa. Voilà, un quinoa d'adoption.
Vous avez fait des humanités artistiques?
À l'Institut des Beaux-Arts de Lubumbashi. Ce sont fait des humanités complètes, comme voilà, toutes les autres humanités. Vous avez maths, physique, latin, philo, mais là c'est artistique.
Vous
c'est
apprenez
complet.
Quoi?
Bon, en fait, il y a un accent, en fait. Quand on parle de la pratique, nous sommes beaucoup plus dans les dessins, dans la peinture. Si vous êtes, vous avez choisi l'option peinture, ou bien dans la sculpture, si vous avez choisi l'option sculpture. Mais à côté de tout ça, vous avez toutes les autres matières, hein, donc la mathématique, la chimie, la physique. Alors, les débouchés, parce que quand on fait les humanités artistiques, pas obligatoirement que voilà, vous allez vous retrouver à l'Académie des Beaux-Arts. Moi, j'ai des amis qui sont médecins, qui sont juristes, mais qui ont...
Mais qui ont fait les humanités artistiques.
Qui ont fait les humanités artistiques, donc voilà.
Pourquoi avoir choisi de faire les humanités artistiques?
Je me suis retrouvé là. Donc,
comment?
Comme j'ai dit toujours, l'art m'a choisi. Je viens d'une famille d'artistes, si je pourrais me le permettre, ou bien des passionnés de l'art, parce que mon papa, au départ, c'était déjà ce qu'on pourrait appeler les peintres du dimanche. Tous mes oncles paternels, c'est des gens qui ne sont pas étrangers à la peinture et au dessin. Alors, j'étais dans cet environnement-là où je me disais, c'était tout à fait normal de dessiner, en plein cours ou à la récré. Et je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose de très, très sophistiqué de ma vie, parce que peindre, c'est mon papa, il avait un travail à côté. Et c'est l'échec de vouloir rejoindre des écoles d'ingénieurs, donc des écoles d'application, ou bien des écoles d'application
école
de techniciens, oui, mais techniques, parce que non, l'Institut des Beaux-Arts, c'était une école technique, mais pour les arts plastiques. En fait, l'ensemble, j'étais très bon, mais sauf dans les mathématiques ou dans tout ce qui était qui faisait intervenir les chiffres, hein, donc voilà. Alors déjà, c'était déjà un obstacle. Je voulais rejoindre ce qu'on appelait l'école Salama à Lubumbashi. Mm-hmm. Alors les prêtres, ils ont dit, mais non, la colonne là, elle n'est pas bonne. Et mon papa, qui peut-être ne comprenait pas pourquoi est-ce que je voulais rejoindre et une école technique, l'école technique Salama, m'a dit, bon, écoute, tu as une autre option, c'est de revenir après avoir passé 2 ans à l'Institut des Beaux-Arts. En 3e année, tu peux toujours changer. Et voilà. Et moi, il m'a inscrit alors, parce que je ne pouvais pas intégrer l'Institut Salama, il m'a inscrit à l'Institut des Beaux-Arts, où il connaissait déjà. Et la première année, j'ai découvert que j'étais chez moi, parce que voilà, j'étais le meilleur de ma promotion et je l'ai continué comme ça jusqu'au diplôme. Alors je n'ai plus voulu quitter l'Institut des Beaux-Arts.
Mais les chiffres interviennent quand même lorsqu'on fait des dessins, professeur Henri Kalama.
Non, c'est très sensible. Je ne suis pas dans les arts graphiques, hein, où on calcule. En fait, là, on fait intervenir la sensibilité. Et les chiffres ici, ce n'est pas une spéculation où, voilà. C'est au fait les rudiments, en fait, je pourrais dire. Donc, j'étais beaucoup plus fort dans tout ce qui avait trait à la mémoire. Hein, donc, je pouvais capter le maximum ou encore l'essentiel de tous les cours qui avaient été à la mémoire. Mais j'étais très moyen, même quand j'ai terminé comme maire de ma promotion, chaque année, je me demandais peut-être que on me délibérait seulement dans des cours comme la mathématique ou la physique, mais la chimie, je m'en sortais quand même. Donc, malgré tout ça, ça veut dire que le maximum de mes points, je les avais dans les cours qui avaient trait soit au dessin et à la mémoire. Voilà.
Alors, après les humanités artistiques, vous poursuivez vos études supérieures à Kinshasa, à l'Académie des Beaux-Arts.
Voilà, exact.
Donc, c'est la continuité
des études
humanitaires.
Quand j'ai terminé à Lubumbashi, mon papa voulait m'envoyer en Afrique du Sud. Alors, et c'était juste, je ne sais pas si c'était vraiment un engagement sérieux ou c'était une façon de me garder encore à côté de lui. J'ai décidé, dans l'espace de 3 jours, que je devais venir à Kinshasa. Et je suis venu à Kinshasa en 1996.
Mais pourquoi vous avez refusé d'aller en Afrique du Sud?
Je n'ai pas refusé, en fait. Ça veut dire qu'il devait se donner les moyens. C'est bien de donner les promesses aux enfants, mais il faudrait transformer les promesses en action ou en réalité.
Et après vos études, à l'Académie des Beaux-Arts, vous avez enseigné?
Oui, j'étais retenu comme chargé de pratiques professionnelles, ça on appelait CPP, au département peinture.
Avant de vous envoler pour la Chine.
Pour la Chine, je voudrais saluer et remercier mon ancien directeur général, le déjà honoraire Daniel Chongo, qui avait tout fait pour que je puisse obtenir une bourse du gouvernement chinois.
C'était pour une spécialisation
C'était pour faire la licence, parce qu'à l'époque, ici, il n'y avait que des graduats.
Vous êtes allé en Chine, vous êtes resté 5 ans.
Bon, en fait, c'est un peu difficile. Je crois que j'ai fait 2 ans pour obtenir ma licence. Et puis, je suis reparti encore en 2004 pour commencer mon master. Et je suis reparti encore pour une troisième fois, si ma mémoire est bonne, en 2010. Pour ma thèse de doctorat.
C'était une bourse réservée aux étudiants congolais, en fait aux étudiants de l'Académie des Beaux-Arts.
Non, non, c'était une bourse réservée aux ce qu'on appelle les scholars. Une bourse réservée aux gens qui sont dans le métier, donc des assistants qui voudraient avancer dans leur carrière.
Alors vous vous retrouvez en Chine, il fallait déjà apprendre la langue.
Oui.
Il fallait se contenter juste de l'anglais, les cours s'est donné en anglais.
Bon, en fait, j'ai eu des cours dans presque toutes les langues, mais pour l'essentiel, c'était en chinois. Mais contrairement à ce que les gens peuvent se dire ici, vous retrouvez des enseignants qui s'en sortent très bien en anglais et puis qui s'en sortent très bien en français.
Alors, donc, sont voilà, polyglottes, quoi, qui parlent plusieurs langues.
Oui, voilà, qui parlent plusieurs langues et qui pourraient des fois accepter que vous puissiez remettre un TP en anglais ou en français.
Mais j'imagine que ça n'a pas été facile pour vous au début lorsque vous êtes arrivé.
Oui, les Chinois, c'est... Bon, maintenant, peut-être avec beaucoup de recul, je pourrais me dire, bon, ça n'était pas facile, mais maintenant, je trouve tout à fait normal. Donc, ça n'a pas été très facile. Ça n'a pas été facile. Mais voilà, je me suis dit, rien de plus grand n'est facile. Il fallait se donner les moyens. Et aujourd'hui, on est là, je parle couramment chinois.
Et ce sont les professeurs chinois qui vous ont encadré?
Oui, il y a pour l'essentiel, mais il y a aussi ce qu'on appelle... Export, the export program, ça, de quoi? Des institutions qui sont partenaires de l'Académie des Beaux-Arts de Chine, donc China Academy, alors qui viennent avec des programmes sous forme de modules, donc dans une année académique, vous avez le programme qui vous vient de l'Académie des Beaux-Arts de Berlin ou de certaines écoles des Beaux-Arts de France.
Et donc après ce master en Chine, vous revenez en retient comme professeur à l'Académie?
Non, non, j'étais CPP. Alors CPP, on en a eu au fait dans tous les instituts supérieurs techniques, donc notamment chez nous à l'Académie des Beaux-Arts, à l'IBTP, à l'ISTA, ainsi de suite. Alors pour être assistant, il fallait avoir une licence. Alors déjà quand j'ai eu ma licence, quand je suis revenu, j'étais promis assistant. Assistant de premier mandat, j'ai voulu assistant de deuxième mandat. Mais quand j'ai eu mon master, après publication, c'est là que j'ai été nommé chef des travaux. Et avec une thèse de doctorat, et je suis devenu professeur associé.
Alors, professeur Henri Kalama, qu'est-ce qui vous attire dans l'art?
Donc, je suis né artiste. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des plongées, on a une sensibilité, on a des captes, comment encore je pourrais dire.
Vous commencez à perdre votre français, hein, c'est le fait de beaucoup parler anglais, chinois ou quoi?
Je ne sais pas, en fait, c'est, voilà. Alors, je voudrais dire, vous avez comme des plongées vers l'âme du monde, ou vers, dans l'univers, où il y a un besoin d'expression qui n'est pas qui ne voudrait pas choisir au fait des canaux ordinaires pour prendre corps. Et c'est comme ça que on ne décide pas d'être artiste. On est artiste et les œuvres s'imposent à vous parce que vous êtes inspiré. Mais cette inspiration là ne peut prendre corps qu'avec la technique. Et c'est ce que nous apprenons très souvent d'abord au départ dans les écoles. Nous apprenons la technique et plus on évolue, on apprend maintenant la spéculation. Comment donner, construire un concept, comment contextualiser son travail ou lui donner un discours. Donc voilà, donc ce n'est pas un problème de choix. Hein, donc j'ai dit toujours, pour être un peu terre à terre, vous savez, si quelqu'un arriver à composer une chanson que vous trouvez non inspirée, très souvent on dit les anzemboyako fondé. Alors on ne peut pas fonder les œuvres. Les œuvres s'imposent quand elles sont vraies. Alors elles s'imposent à vous. Donc vous ne pouvez pas vous taire. Si vous vous taisez, eh bien ça prend un moment. Et puis un jour, et puis voilà, l'œuvre disparaît en vous. Donc c'est une urgence, c'est un besoin de s'exprimer. C'est pour être un catharsis aussi pour l'artiste. Donc ce n'est pas juste une posture. Eh bien, je décide, je vais devoir devenir peintre, je décide, je vais devoir devenir sculpteur. Peut-être les médiums, on pourrait les choisir. Mais on ne choisit pas d'être artiste.
Alors, lorsqu'on parle, je parle de l'art, c'est un peu trop vague, c'est grand. Mais vous êtes peintre, artiste ou peintre?
Voilà, je suis un peintre.
Vous avez participé à plusieurs expositions en Europe, même en Afrique aussi.
Aux États-Unis aussi.
Aux États-Unis. On dit que la peinture ne nourrit pas le peintre. Comment vous avez fait pour avoir cette chance-là de pouvoir exposer, faire des expositions en Europe, aux États-Unis?
Déjà, pour commencer, exposé aux États-Unis ou en Europe, où je ne vais rien dire en termes d'argent. Donc voilà. Pour être riche, il ne faut pas être artiste, il faut peut-être être banquier, ainsi de suite. Mais il y a des exceptions partout. Alors aujourd'hui, vous avez...
Non mais contrairement aux artistes étrangers qu'on voit ailleurs, professeur, se retrouvent dans ce qu'ils font, dans le travail qu'ils font.
Trompez-vous, même en Europe, c'est une minorité des artistes qui se partagent au fait l'essentiel et de toute l'assiette. Donc ce sont des minorités. Et ici aussi, je trouve tout à fait normal. Donc voilà. Et ainsi va la vie, je trouve. Donc il y a, au-delà, les talents lui-même ne suffit pas. Il y a un sens managérial qu'il faudrait avoir. Comment vendre son image, comment faire savoir ce qu'on fait. Donc voilà, donc déjà, ces gens sont artistes parce qu'ils n'ont pas choisi d'être artistes. S'il fallait choisir, nous avons eu des amis qui ont fait des choix qui étaient guidés par la raison. Les parents disent, vous n'allez pas là-bas parce que vous ne saurez pas mettre du pain sous la table. Alors, vous devez peut-être devenir économiste ou juriste. Mais là, si vous n'êtes pas appelé juriste, vous vous retrouvez en train de rêver, là où il faut construire un dossier pour un client, mais voilà, vous avez fait le choix des raisons, alors que vous êtes une autre personne. Alors maintenant, vous retrouvez toutes ces personnes qui vivent leur passion, mais peut-être qui n'ont pas l'essence managériale ou qui ne savent pas communiquer. Mais ça n'a rien d'exceptionnel, que ce soit aux États-Unis et voilà, en Europe. Ou voilà, l'Afrique ne fait pas exception. Je trouve que c'est cela. Pour devenir riche, il ne faut pas être artiste. Mais si on aime vraiment son travail et qu'on est vraiment dévoué à celui-là et qu'on transpire pour celui-là, je crois que la nature n'est pas injuste. Elle sait toujours rétribuer les gens qui donnent avant de prétendre recevoir.
Alors vous serez d'accord avec moi, professeur, lorsqu'on a des expositions ici à Kinshasa, par exemple, c'est une certaine catégorie de personnes qui assistent à ces expositions et qui vont à ces expositions. Comment vous expliquez ça? Les Congolais n'aiment pas la peinture.
Donc, en fait, il y a une déconnexion, d'abord une mise à distance qui a été opérée lors des la colonisation, ou peut-être s'il faudrait répartir un peu plus loin, l'esclavagisme, ainsi de suite, où les Congolais étaient mis à distance avec son art, en fait, parce qu'au départ, l'art, c'était une médiation entre l'autre, entre, voilà, notre monde et Dieu. Et voilà, c'était la même chose. Ce n'est que justice, même en Europe, quand on voyait l'art gothique, ce n'était pas d'abord l'art pour la délectation. L'idée de l'art pour la délectation, que ce soit en Europe ou ici, elle est toute récente. Alors, les pendants de l'art gothique, qui était l'art religieux en Europe, c'est notre art ancien qui était au fait, qui servait de médiation entre nous et les ancêtres, ou bien entre nous et Dieu. Alors déjà, quand on a jeté un anathème sur ça pour dire que ça c'était des fétiches, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui. Alors donc il y a des gens qui continuent à considérer l'art comme étant l'art comme relevant d'une autre cosmogonie, et l'artiste ensemble avec lui. Alors.
Mais vous faites quoi, vous, artiste?
Je suis en train d'expliciter. Alors donc c'est pour dire d'abord que voilà. Il y a eu cette déconnexion-là. Mais aujourd'hui, hein, donc si vous allez presque dans toutes les écoles maintenant, il y a les cours d'esthétique qui est enseigné. Alors il y a une nouvelle génération de personnes qui ont appris le langage de l'art, parce que je dis toujours que l'art, ce n'est pas un langage universel. Et s'il l'est, c'est dans la mesure où tout le monde peut apprendre cette langue-là. C'est une langue comme toutes les autres, qui demande un certain apprentissage pour avoir une lecture pour interagir avec celui-ci. Alors il y a un travail qui est en train de se faire là-dessus, et aujourd'hui je pourrais vous dire que l'essentiel, ce n'est pas seulement les étrangers qui achètent des œuvres ou qui collectionnent des œuvres. Il y a aussi une nouvelle génération des Congolais.
Oui,
oui. Mais je vous dis que la tendance est en train d'évoluer. Nous pourrons même nous retrouver, je pourrais même risquer là, peut-être, nous pourrons prendre, je pourrais dire, 70% des étrangers et 30% des Congolais, des jeunes. Hein, donc des jeunes qui sont décomplexés de tout et qui ne collectionnent pas par parade, mais parce qu'ils parlent le langage de l'art, parce qu'ils savent, ils sont à même d'interagir avec l'art. Il y a aussi un problème économique, alors où on se dit, nos besoins sont ailleurs, alors c'est quand on a... Et on a satisfait d'autres besoins primaires que logiquement on s'achemine vers des besoins beaucoup supérieurs, je pourrais dire, voilà.
Ces jeunes qui s'intéressent à l'art aujourd'hui, ou encore ces jeunes qui se décident de se lancer dans l'art après les études, pourquoi ils ne sont pas accompagnés?
Bon, déjà au départ il y a les parents qui font des choix, des raisons, ils se disent... Mais maintenant, ça a beaucoup changé. Oui, par notre institution, on reçoit de plus en plus d'étudiants, c'est parce que, voilà, on voit qu'il y a tel artiste. Bon, voilà, les gens sont très sensibles au tape à l'œil, hein, donc à l'apparence. Il a une belle voiture, il a une belle maison, il est qui? C'est un artiste. Ah bon? Un artiste peut aussi, s'offrir tout ça. Alors bon, donc moi, mon fils qui dessine beaucoup là, je crois qu'il faudrait l'amener là-bas. Il y a d'autres aussi qui amènent les enfants qui n'ont rien, qui n'ont pas de talent, qui n'ont rien vraiment à faire avec l'art, mais parce qu'ils se disent que voilà, peut-être mon fils pourrait devenir comme tel autre. Je crois qu'il y a un accompagnement maintenant qui s'est fait. Déjà, il y a les statuts d'artiste qui s'est imposé comme ça, qui est dans le public, avant d'être consacré peut-être par l'État, mais déjà, c'est une réalité, on est respecté quand on est artiste. Mais ça, c'est très différent dans notre société.
Ça dépend, hein. Vous êtes respecté peut-être parce que vous êtes connu, professeur Henri Calama. Il y a des artistes, plein d'artistes là, qui ne sont pas respectés, qui se plaignent, professeur.
Non, peut-être qu'ils se plaignent de l'argent, mais ils sont respectés pour les statuts. Ils sont artistes, et on les salue comme ça. Artistes, voilà, bonjour artiste. Alors vous retournez, vous dites que c'est peut-être moi, mais non, c'est quelqu'un d'autre. Bon voilà, peut-être qu'il n'a pas tous les attributs dont vous faites allusion, mais je crois que le statut, il est là, et l'artiste est respecté dans la société, et il est reconnu.
Il devrait aussi se retrouver.
Oui, je crois que, bon voilà, il devait se retrouver, bon, il y a une part, d'abord qui dépend de lui, et puis il y a aussi l'État qui doit agir dans l'environnement donc favoriser, créer les conditions qui permettent l'éclosion, n'est-ce pas, ou qui permettent à ce que les artistes puissent se retrouver. Donc, et si vous regardez de plus près, je crois qu'il y a toutes ces conditions-là sont là, mais peut-être c'est dans l'application, donc voilà.
Alors, professeur Henri Kalama, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Je n'aime pas les poseurs. Les poseurs, c'est peut-être en anglais, des poses. Donc, les hypocrites, hein, des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Ça, je déteste. Et puis, la médiocrité. Voilà.
Vous aimez les bosseurs, les travailleurs?
J'ai beaucoup de respect pour les bosseurs. Beaucoup, alors, beaucoup de respect. Et puis, des gens qui sont vrais, qui veulent apprendre. Quand ils ne connaissent pas, ils disent, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez m'apprendre, ainsi de suite. Mais les gens qui prétendent, qui portent des masques, alors ce sont des gens que j'exècre.
Vous êtes marié?
Oui, marié et père de deux enfants.
C'est quoi votre plat préféré?
Plat préféré?
Vous mangez tout?
J'en ai seulement.
Vous mangez tout?
Je mange tout. Je ne suis pas trop attaché à la nourriture, en fait. J'ai fait toujours une blague à ma femme, une blague qu'elle n'apprécie pas tellement. Quand elle me pose que vous allez manger quoi, je dis, vous savez, je n'appartiens pas ici, j'appartiens là-bas. Donc j'appartiens au ciel. Et au ciel, on ne mange pas. Alors elle, ça... Oh, y a un brin de tristesse que vous voyez des fois dans son visage. Je me suis dit, est-ce que ce monsieur, il me dit que voilà, quel est le message qu'il essaie de lui envoyer. Donc je ne suis pas trop attaché à la nourriture. Mais j'aime la nourriture, j'aime manger, mais...
Parce que c'est présent devant vous, vous mangez.
Oui, je n'aime pas beaucoup rester au resto, donc voilà. Mais je mange pour rester en vie, bon voilà.
Vous aimez le sport?
Oui.
Vous en pratiquez aussi?
Oui.
Quel sport?
Je fais la boxe.
Ah, vous êtes boxeur?
Oui, parce qu'on transpire beaucoup. Il y a, c'est un peu la même chose que la peinture, en fait. Je suis très physique quand je peins. Alors j'aime tout ce qui est un peu tranché et physique.
Comment vous passez vos moments de détente?
La musique.
Vous aimez la musique?
Exagérément, je crois que c'est une porte par laquelle en fait je capte mes inspirations.
Okay, donc la musique est omniprésente. Parce que la musique vous inspire aussi.
Elle me transporte. Donc elle me transporte vers les ailleurs, vers des moments... passé ou d'autres à venir, ainsi de suite.
Quels sont les musiques que vous aimez écouter?
Je suis éclectique, donc j'ai tout. J'ai essentiellement d'abord ce qu'on appelle les New Age, donc des gens qui font une musique que je pourrais, s'il faudrait être un peu, parler un peu, être réducteur, je dirais, la musique abstraite. Donc voilà, c'est une musique qui est faite de sons, donc sans pour autant être descriptive. Hein, donc la musique instrumentale, la musique classique, la musique des recherches, alors essentiellement, et puis il y a tout ce qui se... les reggae, le côté revendicatif, voilà, et puis la musique congolaise, quelque part, et puis la musique afro-cubaine, donc il y a un peu de tout chez moi.
Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment?
Alors ça doit être... je ne sais pas si c'est quoi le titre, Mystic, Natural Mystic.
C'est de qui?
Bob Marley.
Bob Marley. Ok, on va demander à Willem. Mm. Voilà, il me fait signe, il dit qu'on a ça, Natural Mystic, c'est ça?
Oui.
Alors, pour votre plaisir, mais également pour le plaisir de tous ces auditeurs qui sont branchés en ce moment, en train de nous suivre, professeur Henri Kalama, on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
There's a natural mystic flowing through the air. parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui le professeur Henri Kalama Akoulez. Il est artiste, peintre, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Professeur, parlons de l'Académie des Beaux-Arts. Ça fait 100 jours que vous êtes à la tête de cette institution.
Oui.
Comment vous vous sentez?
À l'aise. Donc, ça va. Nous, je pris possession de la maison. Je suis content de ce qui est en train de se faire. Bien sûr que c'est un moment intense en ce moment. C'est un moment intense parce que nous sommes en train de préparer la cérémonie de collation des grades. Il va devoir intervenir incessamment. Mais pour l'ensemble, nous avons assaini les milieux, nous avons remis les gens au travail.
Vous voilà. Avez remis les gens au travail, ça veut dire quoi? Parce qu'il y avait des gens qu'on avait licenciés.
Non, excusez-moi, là-dessus, je crois que je me suis un peu abusé. Je voulais dire, nous avons remobilisé les gens qui étaient au travail. Donc, avec des consignes claires. Donc, motiver les gens qui étaient déjà à l'ouvrage, leur dire, donc voilà, peut-être il faudrait recadrer telle chose ou tel autre élément.
Avoir un fils de l'Académie des Beaux-Arts à la tête de cette institution, ça veut dire que vous connaissez très bien les réalités, les problèmes que rencontre cette institution.
L'avantage que j'ai ici, si vous voyez l'Académie des Beaux-Arts, je suis toujours en train de causer avec des papas d'un certain âge parce qu'ils m'ont vu quand j'étais étudiant. J'ai eu le même contact avec eux. Certains enseignants, j'ai eu le même contact avec eux quand j'étais encore étudiant. Alors ça veut dire que je connais les problèmes de cette maison-là. J'ai eu l'avantage d'évoluer ailleurs aussi. Je me dis, mais pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas nous inspirer de telle autre institution qui est une institution de renom? Pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas s'inspirer de l'application ou de l'interprétation que fait telle institution de tel ou tel autre programme? Je crois que c'est ça l'avantage, en fait. J'ai un bilan. J'ai d'abord, il y a un côté passionnel d'être un enfant maison, de voir sa maison qui doit être l'œuvre qui était entreprise par les prédécesseurs, que cette œuvre-là soit pérennisée, et comment petit à petit opérer une transition, comment petit à petit ouvrir cette institution aux normes internationales.
Est-ce que vous accompagnez vos étudiants, par exemple, lorsqu'ils font des expositions?
Bon, je ne sais pas, ça dépend déjà. Et puis, on parle de quel accompagnement, parce que l'Académie des Beaux-Arts donne une formation. Les enseignants, ils ont un accompagnement, en fait, dans la compréhension peut-être des concepts, ainsi de suite. Mais je ne sais pas de quel accompagnement on aurait bien voulu. L'accompagnement financier, par exemple, l'Académie n'a pas d'argent, on donne la formation. Alors pour le reste, ce n'est pas l'erreur de l'Académie. Je ne vois pas que fait d'autres institutions. Par exemple, si vous terminez à l'Unikin, par exemple. Donc voilà, vous payez les frais, vous recevez la formation, et après vous faites un stage, et après vous mettez à votre propre compte. Donc l'accompagnement, allez toujours dans une exposition d'un étudiant ou d'un ancien étudiant, vous retrouverez ses amis, vous retrouverez ses anciens professeurs. Et vous retrouverez des fois les autorités, les anciennes autorités académiques.
Alors vous dites que l'académie n'a pas de moyens, n'a pas d'argent, mais vous pouvez vous faire de l'argent en organisant par exemple des expositions
à
l'académie.
Mais cet argent-là même à définitif n'est pas fait pour donner. Vous savez par exemple, un étudiant qui a terminé, il devient artiste. Alors donc voilà, les sponsors, ce sont les banques, ce sont d'autres institutions. Nous, si nous avons l'argent, nous devons l'investir dans la formation. Et c'est en amont que nous investissons cet argent-là sur l'étudiant, quand il est encore dans les cursus, mais une fois qu'il a terminé. S'il faut les recommander, il a besoin d'une recommandation, nous les faisons. Il y a des étudiants les anciens étudiants qui obtiennent des bourses et voilà, qui ont besoin d'une recommandation de l'Académie des Beaux-Arts. Ça s'est fait.
Et même, alors, il paraît que ces bourses-là...
C'est un accompagnement moral.
Ces bourses-là se donnent en fonction d'une certaine familiarité.
Il n'y en a pas. Alors on essaie, quand il y a une bourse, on la donne à un enseignant. S'il y a une bourse qui tombe à l'Académie des Beaux-Arts, la priorité, c'est la mise à niveau, en fait, c'est des enseignants. Ce n'est pas à donner à un étudiant. Alors maintenant, un étudiant qui termine et que nous avons une bourse qui est ouvertement dite, par exemple, excusez-moi, je voudrais déjà vous dire qu'il y a, l'année prochaine, il y a par exemple 3 bourses qui viennent, bon, c'est des bourses, des petites bourses d'une semaine, mais destinées aux étudiants. Mais nous n'allons pas mettre les enseignants sur ces bourses-là. Ce sont des bourses destinés aux étudiants qui sont régulièrement inscrits à l'Académie des Beaux-Arts, pas qui ont terminé. Alors donc, ils ont la chance de voyager alors qu'ils sont étudiants et de revenir. Et voilà, ça c'est...
Ben, les critères de sélection, ça se passe comment?
Mais
comment
on a un concours, par exemple. Là, par exemple, ce serait un concours de photographie. Et alors, maintenant, il y aura un jury. Alors, ce n'est pas une personne qui choisit, juge de son propre chef. On constitue toujours un jury pour raison d'équité. Alors donc voilà, et à l'issue de ces jurys-là, il y aura 3 personnes qui vont devoir aller à Dortmund, en Allemagne, pour exposer leurs œuvres et puis peut-être profiter aussi de l'expérience de leurs collègues allemands.
Alors ces échanges d'expérience, ça se fait souvent
oui, ça s'est fait
entre l'Académie de Beaux-Arts et d'autres institutions étrangères.
Ça s'est fait avant avec les SAD, l'École de Strasbourg, mais maintenant là nous sommes aussi en partenariat avec les Belges, donc l'Académie de Tournai et la Cambre, qui sont toutes des institutions belges. Et la Cambre, pour ce qui est du département de restauration et conservation, voilà, conservation et restauration, et puis tourner sur divers projets et l'échange des programmes.
Professeur Henri Kalama, quelles sont les sections que vous organisez ou qu'on retrouve à l'Académie des Beaux-Arts?
Nous avons 3 sections. Donc il y a une section art plastique avec comme département le département peinture, le département des céramiques, des sculptures, des métaux. Et le tout dernier département, c'est celui de la conservation et restauration. Et puis il y a la section art graphique avec deux départements, le département d'architecture d'intérieur et le département de communication visuelle. Et puis il y a la section Institut des Beaux-Arts, qui est notre école d'application ou notre pépinière.
Mm-hmm.
Donc voilà.
On dit que vous recevez beaucoup d'étudiants africains.
Oui, bon, en fait, mais maintenant un peu moins.
Un peu moins.
Un peu moins, mais je crois qu'ils vont devoir revenir, surtout avec le nouveau département de conservation et restauration.
Conservation et restauration, ça...
Bon, c'est un nouveau département, mais voilà, dans la sous-région, nous serons la seule institution à organiser ce département-là, ou bien ce type d'enseignement-là. Alors ça pourrait faire... que beaucoup, avec tous les musées qu'il y a dans la zone, oui, voilà mm-hmm. Déjà, ouais, voilà.
Vous encouragez les jeunes qui veulent se lancer dans l'art de venir à l'Académie des Beaux-Arts, de ne pas se décourager parce qu'on leur dit il n'y a pas d'argent.
Il faut y croire,
il n'y a pas d'argent.
La limite, non, voilà, s'il n'y a pas l'argent, bon, enfin, je ne voudrais pas qu'on s'arrête sur ça. Je suis un optimiste, alors je ne pensais pas que peut-être vous alliez le prendre dans ce sens, mais il n'y a pas d'argent à donner. Parce que ce n'est pas ça la mission de l'institution.
Je parle pas de ça. Ouais. Décourager les jeunes dans le sens que c'est vrai, tu vas faire la peinture, mais après dans la vie, tu ne te retrouves pas si tu n'as pas, d'appui.
Ils doivent s'écouter, non pas écouter ce que dit l'entourage ou l'environnement. Donc je crois que nous ne pouvons pas tous devenir des ingénieurs ou tous devenir, des juristes. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait un artiste, qu'il y ait un juriste, qu'il y ait un musicien, ainsi de suite. Donc voilà, je crois qu'ils doivent s'écouter et faire leur propre cheminement, donc leur propre choix d'abord, et cheminer vers leur propre réalisation. Parce que chacun a un plan. Alors, mais maintenant, ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre. Vivez votre vie, la vie que vous devriez vivre. Voilà. C'est très simple. Les parents doivent se dire que pour réussir dans la vie, on n'est pas nécessairement obligé d'être médecin. Il y a des gens qui ont terminé en médecine, qui sont médecins. Mais voilà, c'est des mauvais médecins parce que, voilà, ils sont médecins sur papier. Mais pas dans la vraie vie ou bien pas dans l'âme. Il y a des artistes aussi, hein, ça, qui sont artistes sur papier ou artistes de bricolage, mais qui ne sont pas artistes dans l'âme. Et ils sont toujours, voilà, à la queue.
Vous avez un atelier ici ?
Oui. Donc un atelier privé, mais voilà, qui reçoit beaucoup de jeunes.
Et qui viennent faire le stage ?
Bon, oui, qui sont venus faire les stages, d'autres qui travaillent, mais chacun, bon voilà, c'est les Kalama, les ateliers réunis. Donc voilà, c'est plusieurs ateliers chez moi. Okay. Mais alors, les jeunes bénéficient d'un accompagnement.
Plusieurs ateliers, c'est-à-dire différentes disciplines?
Non, différentes individualités. Je parle des individualités.
Ok.
Hein, donc, voilà. Alors, certains de mes anciens étudiants sont des artistes très connus aujourd'hui. Alors, ça, c'est déjà quelque chose. Donc, nous accompagnons, en dehors de l'Académie des Beaux-Arts, nous accompagnons les jeunes. Bon, pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure.
Mais voilà, là, vous me donnez une réponse.
Mais
vous accompagnez ces jeunes-là.
Là, vous parlez de l'Académie des Beaux-Arts, mais l'accompagnement, c'est celui-là aussi. C'est les soutiens, bon, voilà, qui moral, peut-être qui pourrait devenir aussi un peu, peut-être du point de vue logistique. Voilà. Mais voilà, ça, c'est. Je ne voudrais pas qu'on dise que ça ne se fait pas. Ça se fait. Et je ne sais pas, bon, voilà. Mm-hmm. Les plaintes peuvent venir d'où?
Alors, professeur, à part votre atelier, est-ce que l'on retrouve d'autres à Kinshasa où les étudiants peuvent aller passer leur stage?
Oui, il y a plusieurs ateliers. Il y a plusieurs ateliers, alors selon leurs affinités, selon l'admiration, en fait, qu'ils ont pour tel ou tel maître, alors ils choisissent d'aller effectuer leur stage.
C'était un plaisir de vous recevoir, professeur Henri Kalama. Vous avez peut-être un dernier message à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Plaisir partagé. Je n'aime pas les mots. Je n'ai pas des mots de la fin, donc voilà. Je suis encore en vie, donc voilà.
Non, c'est par rapport à l'émission. Hein,
par rapport à l'émission, bon, c'est une très bonne émission. Ah, voilà. Ça, je vois. C'est une très bonne émission. C'est vraiment un privilège pour moi d'être accueilli dans vos studios, surtout être accueilli par vous.
Merci, c'est aussi un plaisir pour moi, professeur, de vous avoir reçu dans cette émission. Hein. Merci d'être venu.
Je vous en prie.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le professeur Henri Kalama Akoulez. Il est artiste, peintre et directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Merci à Willem Lungamba qui était à la prise de son. Au micro, Kelly Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.